Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. L'hypnose a longtemps été associée à l'univers des magiciens. Aujourd'hui, c'est une médecine alternative qui sert de plus en plus à soigner l'anxiété, le stress, les crises d'angoisse, des troubles psychologiques qui sont devenus des composants de notre vie quotidienne. Alors, comment reconnaître les différentes formes d'anxiété? Comment l'hypnose peut-elle aider à gérer ce genre de troubles? Est-elle adaptée aux enfants? Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Pourquoi l'hypnose est-elle de plus en plus utilisée dans les hôpitaux pour éviter d'avoir recours à l'anesthésie? On va essayer de répondre à ces questions avec nos invités. Docteur Lauriane Bordenave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin hypnothérapeute au centre Hypnosis à Paris, formatrice à l'Association française pour l'étude de l'hypnose médicale, et vous avez publié « L'hypnose pour mon enfant, solution pour petits et grands problèmes » dans la collection « J'ose l'hypnose » aux éditions InPress. En ligne de Toulouse, Jean-Jacques Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en médecine, anesthésiste réanimateur et vous avez publié « Contacter nos défunts par l'hypnose, la transcommunication hypnotique, une nouvelle thérapie pour le deuil » aux éditions Trédaniel. Pour poser vos questions ou témoigner, vous connaissez notre numéro le 33 1 84 22 75 75. Dans 20 minutes, nous serons en ligne avec le docteur Myriam Tsiri, médecin hypnothérapeute à Casablanca au Maroc, présidente fondatrice de l'Association marocaine d'hypnose clinique. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur l'épidémie de grippe qui progresse en France avec le docteur Sybille Bernard-Stocklin, épidémiologiste à Santé publique France.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Laurence Bordenave, d'abord une question qu'on vous a peut-être posée mille fois. Quelle est la différence entre l'hypnose que pratiquent les magiciens et celle que pratiquent les hypnothérapeutes comme vous?
Ah, c'est une vaste question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale. Alors, ça n'a rien à voir, hein. Il faut être tout à fait clair. On ne peut pas comparer les deux. L'hypnose de spectacle, c'est quelque chose de public, d'éphémère, où un hypnotiseur va utiliser un volontaire hypnotisé pour divertir, pour éblouir. Dans l'hypnose médicale, on parle bien de quelqu'un qui va venir consulter pour aller mieux, pour guérir, pour changer. Et c'est une démarche qui est très très intime, très personnelle, et qui a quelque chose de très émouvant, qui se fait au sein d'un colloque singulier entre un médecin et un patient. Il est évident qu'en thérapie, personne n'est hypnotisé à son insu. Le changement ne vient pas de quelque chose d'extérieur, d'agissant. Ça n'est pas l'hypnotiseur qui a un pouvoir particulier. C'est bel et bien le thérapeute qui est là pour aider le patient à mobiliser ses propres pouvoirs. Donc là, c'est l'hypnotisé qui vient utiliser les compétences du thérapeute pour aller mieux.
Et il n'y a aucun risque, bien évidemment, de manipulation.
Il n'y a aucun risque de manipulation. Le terme manipulation ne peut pas trouver sa place dans la thérapie. Hein, on parle de suggestion. La suggestion, c'est l'outil phare de l'hypnose. C'est un mot qui est mal compris. En réalité, la suggestion, ce sont des propositions du thérapeute qui sont faites en hypnose, parce que l'hypnose est un état neurologique propice au changement, et ces suggestions ne vont devenir efficaces qu'à partir du moment où le patient va les transformer pour lui, en auto-suggestion. Il y a cette phase qui est incontournable. Hein, ça, on n'est pas là pour implémenter une idée dans le cerveau de quelqu'un. Ça, c'est une croyance qu'il faut d'ores et déjà éliminer.
Docteur Jean-Jacques Charbonnier, quelle définition vous pourriez nous donner, vous, de l'hypnose ?
Oui, ben je crois que votre invitée a raison, hein, je suis tout à fait d'accord avec elle. L'hypnose de spectacle type Mesmer, puisque voilà, c'est lui qui est le plus connu maintenant publiquement pour faire ses spectacles, je trouve que ça donne une très mauvaise image de l'hypnose et à la limite ça fait peur. On a l'impression que un individu peut avoir une emprise psychologique sur quelqu'un, leur faire faire le pitre sur des scènes de spectacle, et donc on a l'impression, ça fait peur. Et ça donne une très mauvaise image de l'hypnose. En fait, l'hypnose que l'on utilise, nous, en chirurgie ou en anesthésie, je crois que l'hypnose a bien repris ses lettres de noblesse grâce aux anesthésistes qui l'utilisent pour opérer des patients sans produits chimiques. Et grâce donc à cette technique hypnotique, on peut maintenant faire de la chirurgie et des chirurgies de plus en plus lourdes, avec des gens qui sont de plus en plus formés à ce genre de chirurgie et ce genre de pratique, sans médicaments. Donc il y a vraiment un progrès réel de cet apport thérapeutique par rapport à l'anesthésie générale, où on a des produits. L'anesthésie générale, c'est quand même un coma chimique réversible, certes, mais un coma chimique quand même. Donc il y a des effets délétères toujours par rapport aux produits que l'on emploie, même s'ils sont de plus en plus légers, ces effets délétères. Et on a une aptitude à la rue, on a des durées de séjour de plus en plus courtes, parce qu'on a une récupération courte, grâce à cette technique d'hypnose. C'est une technique à la fois écologique, et puis aussi qui permet donc une sortie plus rapide de nos patients. Donc vraiment, c'est quelque chose qui devrait être développé. Mais vous savez, l'hypnose en médecine, elle est acceptée que depuis très peu. L'Ordre des médecins a reconnu l'hypnose que depuis 2015 quand même, avec un certain nombre d'autres médecines alternatives comme l'ostéopathie ou l'acupuncture. Alors que on pratique l'hypnose depuis longtemps, savez-vous?
Oui, depuis le 19e siècle, hein, c'est ça?
Ah oui, la première hypnose, c'était en 1829. C'est Jules Cloquet, un chirurgien, qui a pratiqué une mammectomie avec curage ganglionnaire grâce à un hypnotiseur qui n'était autre que le médecin traitant de la patiente. Et c'était le docteur Chapelain qui a fait l'hypnose, et on a fait cette chirurgie, alors qu'à l'époque, l'anesthésie était tout simplement presque à ses balbutiements, puisque c'est en 1840 qu'on a introduit le chloroforme, les premiers produits anesthésiques, les barbituriques, le pentotal.
On va revenir, si vous voulez bien, docteur Charbonnier, à l'état d'hypnose. Docteur Bordenave, le patient n'est pas endormi. On peut pas parler de sommeil, même si le mot hypnose vient du dieu grec du sommeil, hypnos.
Non, c'est vrai que le mot...
C'est trompeur.
Oui, c'est trompeur, c'est un contresens littéral en réalité. En fait, avant de s'appeler hypnose, l'hypnose s'appelait magnétisme animal. Et puis, il se trouve que quelqu'un a trouvé ça un peu trop fanatique comme mot, donc il a donné le mot hypnotisme. Et c'était une erreur en fait, parce que si d'extérieur un sujet en hypnose présente tous les attributs du sommeil, c'est vrai, c'est quelqu'un qui en général dans la forme classique est immobile, avec une respiration lente, un grand calme, une grande tranquillité, c'est ça qui autorise du reste de réaliser un geste invasif sous hypnose, eh bien la personne ne dort pas. En revanche, il y a dans l'état hypnotique une forte composante dissociative, c'est-à-dire une capacité du sujet à être à la fois là pour le soin et à la fois à s'absenter en pensée et en sensation. Donc le sujet est dissocié mais de façon naturelle, pas de façon inquiétante.
Donc ça veut dire qu'il est aux limites de la conscience ?
Alors, les limites de la conscience, c'est une expression qui veut rien dire pour moi. Non, il est dans un état de rêverie éveillée. Je vais revenir sur le terme que j'ai employé précédemment. C'est une forme de rêve éveillé et ça se caractérise par une grande neutralité. Je dirais que c'est un mot qui correspond bien, qui colle bien à l'hypnose, la neutralité. Et les pensées sont neutres et les sensations sont neutres. Il y a une forme d'indifférence qui s'installe par rapport à ce qui se passe autour. Ce qui peut se rapprocher du sommeil avec l'hypnose, c'est que après une séance d'hypnose, on peut garder une certaine amnésie. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant la séance s'échappe, comme un rêve qu'on oublie au fur et à mesure, qui s'échappe. On essaye de s'en rappeler, mais on n'y arrive pas. Donc c'est en ça que l'hypnose peut s'apparenter à un sommeil. Le patient dit, je me souviens pas très bien ce qu'on m'a raconté. Voilà, donc il était à la fois très présent, mais en même temps complètement absent.
Alors, anxiété, stress, crise d'angoisse, est-ce que l'hypnose est la solution miracle pour surmonter ce genre de problème ?
Alors là, on parle d'un autre domaine. En anesthésie, on essaye de mettre à profit cette capacité dissociative dont on vient de parler pour tolérer la chirurgie. En thérapie, il s'agit de quelque chose de différent. Alors, il n'y a pas de solution miracle. En psychothérapie, il y a énormément d'outils efficaces. L'hypnose fait partie de ces outils. Donc on va pouvoir l'utiliser dans certaines indications. Et l'anxiété est une bonne indication puisque l'hypnose a des propriétés apaisantes et tranquillisantes hors normes.
Docteur Charbonnier, est-ce que tout le monde est hypnotisable ?
Potentiellement, oui. C'est comme si vous me posez la question, est-ce que tout le monde est capable de tirer à l'arc ? Potentiellement, oui. Mais il y aura des gens avec lesquels ça sera beaucoup plus facile qu'avec d'autres. Et si vous voulez, pour le principe général de l'hypnose, si on fait un électroencéphalogramme à une personne éveillée et attentive, comme sont vos auditeurs ou vous ou moi qui vous parlent, on sera aux alentours de 21 Hz. Au point de vue activité corticale cérébrale, l'électroencéphalogramme va marquer cette valeur. Et par méthode d'hypnose, eh bien de relaxation, technique de respiration, etc., on va amener à ralentir cette activité corticale cérébrale et on va se trouver dans des zones aux alentours de 10, 9, 8, 7. Et là, dans cette zone-là, eh bien les suggestions de celui qui mène la séance vont devenir les pensées de celui qui reçoit les informations. La suggestion se fait comme ça. Et donc la personne aura sa conscience analytique cérébrale qui sera bloquée. Et elle va être embarquée dans un voyage ou dans une activité. Par exemple, en anesthésie, lorsqu'il s'agit de... Ça marche très bien avec les enfants, puisque la question a été posée. Eh bien, on va, par exemple, amener un enfant à lui faire faire une course à bicyclette. Et quand ça deviendra un petit peu plus dur au point de vue chirurgical ou un petit peu plus douloureux, eh bien on va lui dire maintenant tu vas monter une côte, peut-être tu vas ressentir la route, etc. Enfin, il faut être attentif au vocabulaire aussi. Parce que par exemple si vous dites à quelqu'un vous n'allez pas avoir mal et vous n'aurez aucune douleur, eh bien sa conscience analytique cérébrale va ressentir le mot douleur et mal. Donc il faut être attentif, vous voyez, à la fois au rythme de la voix, au vocabulaire employé, aux techniques de dissociation, de confusion aussi. Donc tout ça est amené par l'hypnose en bloc opératoire, de telle façon que le sujet ne sera pas du tout opéré d'après sa conscience analytique cérébrale. Il sera parti dans son voyage ou dans son activité. Et on arrive comme ça à dissocier ce qui est au niveau de la conscience, de l'opéré, le réel. Et l'imaginaire qui est le voyage ou l'activité physique qu'on lui fait faire.
Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage. Caroline est âgée d'une quarantaine d'années. Elle est saisie de crises d'angoisse depuis que son immeuble est infesté par les rats. Une situation qui l'a poussée à recourir au service de Céline You, hypnothérapeute aux ateliers de l'hypnose. Caroline s'est confiée à Fabrice Wimau.
En fait, je suis phobique des rats, je le sais depuis toujours. Sauf que à Boulogne-Billancourt, au square des Moulineaux, on est envahi de rats. Et du coup, je suis confrontée à ma phobie tous les jours. Les rats sont pas dans l'immeuble, ils sont dans la cour. Comme c'est un square, en fait, ils courent devant votre porte. Voilà, donc c'est sympa.
Ça vous crée une angoisse en vous ?
Oui, ça me crée en fait une peur irraisonnée. Je suis incapable de passer devant, je suis obligée d'être accompagnée. J'y pensais jour et nuit en fait. Donc j'avais plus de vie et j'avais entendu parler que la phobie se soignait par l'hypnose. Hein, c'est pas des cachets qui allaient faire grand chose pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai atterri chez Céline en fait.
Ça fait combien de temps que vous vivez cette situation là ?
Ah 10 jours. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je me soigne, puisque tout de suite ça a été les crises très intenses. dès qu'il fallait que je sorte ou que je rentre chez moi, ben en fait, je peux plus respirer, je pleure, j'ai les jambes qui tremblent, faut me soutenir et je dors pas et voilà comment ça peut se manifester. Je pense qu'à ça. En fait, dans la tête, y a plus que l'aura. Parce que moi, je repars à 6h30 du matin et ça court partout à 6h30 du matin. Donc l'angoisse, en fait, elle était permanente. Après, grâce aux séances, déjà tout de suite, j'ai pu, dans la journée, au travail, ne plus y penser. Bon, ça revenait instinctivement, hein, dès que je quittais mon lieu de travail. Et puis, Céline, elle s'est rendue compte, en fait, que les séances d'hypnose, ça suffisait pas. En fait, j'avançais pas beaucoup dans le processus et que, en fait, je n'avais pas d'énergie. En fait, j'avais que des énergies négatives et en parlant, parce qu'on parle beaucoup quand même, hein, en échange. Donc, c'est comme ça qu'elle a pu me cerner et donc savoir que, en fait, j'avais pas d'énergie qui circulait dans le corps. Et une fois qu'on a eu fait ces séances, là, j'ai senti tout de suite un changement.
Comment vous êtes dit au départ que la solution se trouvait peut-être dans l'hypnose?
J'avais entendu parler que sur les phobies, c'était l'hypnose qui pouvait marcher et sûrement pas des anxiolytiques. Sinon, j'allais sombrer. J'allais me mettre en arrêt de maladie et puis sortir de chez moi. Hein. C'est ça une phobie. Hein. Bah, la première séance, déjà, c'est on retrace notre vie, mais avec des questions précises. Hein. Vous avez un questionnaire hein, pour ça. Et donc, ça, c'est la première. Et la deuxième séance, on a fait une séance d'hypnose pour me calmer, en fait. On est scotché dans un fauteuil. Hein, et moi, j'écoute ce qu'elle me dit. Et puis, je sais pas, ça change mon cerveau. C'est tout ce qui compte. Ça m'a calmée tout de suite.
Comment vous jugez votre état à présent?
Bah, déjà, beaucoup mieux. Je le sens, mais certainement pas suffisamment pour que j'aille affronter ma phobie en claquant des doigts. Et d'ailleurs, je peux toujours pas. Mais quand on a des enregistrements, bah, j'écoute chez moi, en fait, quand je me sens angoissée. J'écoute et ça me calme.
Des enregistrements de la séance?
Ouais, de certaines séances. C'est pas toutes les séances qui sont enregistrées. Hein. Je sens qu'il y a des changements en moi. Je suis plus sûre de moi, je suis moins fatiguée, moins angoissée que je n'ai été avant même que je rencontre Sarah en bas de chez moi, quoi, en fait.
Docteur Bordenave, rassurez-moi, quand Caroline raconte qu'elle est scotchée au fauteuil, elle parle au figuré.
Alors, pas tant que ça, en fait, parce que quand on est en hypnose profonde, on a cette impression d'être un peu scotché dans le fauteuil. Mais je vous rassure, c'est très agréable. En fait, c'est un état qui est profondément agréable, et du reste, les gens qui font une séance d'hypnose, une fois qu'il s'agit d'en sortir, quand la séance est terminée, on n'a pas très envie. Parce que c'est un état qui est tellement tranquillisant, tellement apaisant, que le fait d'être scotché dans le fauteuil n'est pas du tout un problème en soi.
Les phobies font partie des mots pour lesquels on vous consulte souvent?
Oui, c'est un des motifs les plus fréquents, avec effectivement les rongeurs, les insectes, les avions, tout ça, c'est des choses qui reviennent très souvent. La phobie de parler en public aussi.
Alors justement, on a Francis en ligne de Kisangani. Bonjour Francis.
Bonjour RFI.
Francis, vous avez justement, vous, je crois, un problème quand vous devez prendre la parole en public. Racontez-nous.
Oui, effectivement. Depuis mon enfance, j'avais toujours l'anxiété de prendre la parole devant la foule. Et les femmes m'ont été venues à bout était de prendre de l'alcool à chaque fois quand je voulais prendre la parole. Je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement, mais quand je suis arrivé en cinquième année de médecine, parce que je suis étudiant faculté de médecine, dans notre cours de psychiatrie, il y a un chapitre qui parle des troubles anxieux. C'est avant que j'avais compris de quoi il s'agissait. Et j'avais lu aussi sur Internet et j'avais retenu comme conseil qu'il faudra toujours se forcer à prendre la parole et ça, on pourra s'améliorer à la langue. C'est ainsi que j'avais commencé à m'efforcer pour prendre la parole, notamment quand j'ai fini dernièrement mon stage de dernière année de la médecine. Au début, j'avais tellement de difficultés pour présenter les rapports devant nos encadrés pendant le réveil du matin. Mais au fur et à mesure que je le faisais, je me suis senti de plus en plus mieux. Bien que je continue toujours à avoir de l'anxiété, surtout au début de mon discours.
Francis, la ligne n'est pas très très bonne, donc je vais bien résumer votre problème. Donc, avant de passer, vous êtes en dernière année de médecine et vous êtes extrêmement stressé à l'idée de passer encore un examen. Et vous vouliez savoir donc comment gérer votre stress à l'approche de l'examen. Docteur Bordenave, quel conseil pouvez-vous donner à Francis?
Ah, de ce que je lis sur le témoignage de Francis, déjà, il précise que il a développé cette phobie de parler en public, mais que ces dernières années, le trouble s'est amélioré et qu'il est capable de parler en public, même s'il conserve de la peur. Donc ça, c'est très important de noter qu'une difficulté n'est jamais figée. Elle évolue dans le temps et le chemin d'aller mieux, il commence de façon progressive. Et c'est déjà ce qui s'est passé pour Francis. Après, il a déjà développé des stratégies, hein, il a déjà mis en place des stratégies pour aller mieux, mais peut-être l'hypnose peut l'aider de deux manières, je dirais. D'abord parce que quand on est en hypnose, eh bien, on est vraiment très ancré dans le présent et ça supprime toutes les anticipations anxieuses. Donc ça, c'est intéressant quand on va avoir, quand on va être confronté à l'objet de sa peur. Ça rend d'une certaine façon assez stoïque. Et cette capacité à être indifférent est intéressante quand on va parler en public. Après, en hypnose, comme c'est un état qui est très souple d'un point de vue cérébral, on peut tout à fait travailler en faisant ce qu'on appelle de l'exposition virtuelle, c'est-à-dire en s'exposant en imagination à travers l'hypnose à l'objet de sa peur. Donc à une conférence par exemple ou ce genre de choses. Et ça relève d'une forme de thérapie comportementale sous hypnose et c'est très efficace dans les phobies.
Docteur Charbonnier, merci beaucoup hein, Francis de nous avoir appelé à Kisangani. J'espère que le docteur Bordena vous a rassuré et bonne chance donc pour votre examen de dernière année de médecine. Je vais revenir à l'hypnose en bloc opératoire. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, avant de vous libérer, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que l'hypnose est adaptée à quel type de chirurgie? Est-ce que ça s'adresse d'abord pour des petites opérations ou bien aussi pour de grosses opérations?
Ben, tout dépendra en fait de la personne. Tout dépendra de la personne parce que il y a des personnes effectivement qui sont plus ou moins sensibles à l'hypnose et il y a aussi des personnes qui ne pourront pas bénéficier de cette technique. Donc il faudra d'abord que dans la consultation de pré-anesthésie, on évalue la motivation de la personne. Il faudra aussi que la chirurgie s'y prête et qu'elle soit légère, il faut que l'équipe chirurgicale, dans son entier, et ça c'est très important, il faut que le chirurgien, que tout le personnel soignant présent en bloc soit véritablement impliqué dans le process de l'hypnose, parce qu'il y aura des moments chirurgicaux où il faudra ralentir, d'autres moments où il faudra accélérer.
Mais quand vous dites chirurgie légère, est-ce que vous pouvez prendre des exemples hein?
Alors, chirurgie légère, classique, c'est la cataracte, c'est les varices, ce sont les thyroïdectomies. Mais maintenant, il y a certaines équipes qui arrivent à faire des chirurgies lourdes et même des prostatectomies totales sous hypnose. Il y a même la chirurgie cardiaque maintenant qui commence à être développée sous hypnose. Et donc, il n'y a pas que l'activité chirurgicale. Votre invité vous le dit aussi, traitement des anxiétés. Moi, je fais aussi des ateliers pour traiter les anxiétés liées au deuil, des ateliers de transcommunication hypnotique. Là, c'est autre chose, ce n'est pas dans le cadre chirurgical. Donc, on voit qu'il y a vraiment toute une palette de possibles grâce à cet état de conscience modifié unique, hypnotique, qui va permettre à la fois à la médecine d'avoir un autre éclairage par rapport au fonctionnement de la conscience et aussi de traiter différemment les patients en bloc opératoire et aussi de traiter des gens par rapport à leurs angoisses, leurs phobies ou leurs anxiétés.
Docteur Jean-Jacques Charbonnier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais vous libérer. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine, anesthésiste, réanimateur à Toulouse et vous avez publié « Contacter nos défunts par l'hypnose, une nouvelle thérapie pour le deuil » aux éditions Trédaniel. Docteur Bordenave, je vous garde à mes côtés. Vous vouliez compléter ce que vient de dire le docteur Charbonnier?
Oui, sur l'anesthésie, c'est vrai que le prérequis, c'est d'avoir un patient qui est impliqué. Il y a des patients qui n'ont pas envie de voir ou d'entendre quelque chose au bloc opératoire, et ça, c'est, il faut respecter ça. Hein. L'hypnose n'est pas une obligation ou une modalité d'anesthésie classique, il faut le rappeler. Ensuite, je crois qu'il faut pas opposer le médicament et l'hypnose. C'est une erreur de penser que l'hypnose est une technique alternative. C'est une technique qui est complémentaire. Du reste, comme l'a dit mon collègue, on peut tout à fait utiliser l'hypnose sur des chirurgies superficielles, mais on le fera de façon synergique avec des médicaments d'anesthésie. C'est juste que l'anesthésie sera plus légère, donc la récupération sera plus rapide. Mais il est évident que quand on utilise l'hypnose, on n'arrête pas pour autant de faire de l'anesthésie locale. Hein, c'est une erreur de penser ça. Les deux vont ensemble et les deux marchent très bien ensemble.
Alors je vous propose maintenant une pause musicale avec Tamino. Il a 22 ans, il est belge par sa mère, égyptien par son père. Il chante Habibi, cet extrait de son album Amir.
Something hides in every night, brings desire from us from our sleep. And as a false star tries its best to make the white pearl shine, glances of a new day have arrived. And though he's not
la voix envoûtante de Tamino dans Priorité Santé, consacrée aujourd'hui à l'hypnose, remède à l'anxiété notamment. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Lauriane Bordenave, médecin hypnothérapeute au centre Hypnosis à Paris. On va partir pour Casablanca, retrouver le docteur Myriam Tsiri. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi médecin hypnothérapeute, directrice du cabinet Esculap à Casablanca. J'espère que je prononce bien. Et vous êtes présidente fondatrice de l'association marocaine d'hypnose clinique. Est-ce que les Marocains viennent vous voir souvent lorsqu'ils sont anxieux? Et pourquoi sont-ils anxieux?
Alors, je pense que comme partout, l'anxiété anormale représente le problème le plus courant, psychologique le plus courant. Pourquoi ils sont anxieux? Ben, pour toutes les raisons qu'on va retrouver dans le quotidien de la vie, c'est-à-dire simplement le poids des responsabilités professionnelles, personnelles, les événements de la vie, un divorce, une naissance, l'annonce d'une maladie, enfin, toutes ces choses-là, un changement d'organisation au travail, mais encore d'autres choses, hein, passer faire un examen, prendre la parole en public. Voilà plusieurs situations de la vie qui peuvent être générées de l'anxiété. Alors, quand ça dure et que ça commence à impacter le quotidien, eh bien, c'est là où ils viennent nous consulter parce que ils ont une symptomatologie qui est gênante pour eux.
Et est-ce que vos patients connaissent bien l'hypnose ou est-ce qu'ils ont des idées préconçues ?
Alors, quand, en général, me concernant hein, dans mon activité, quand les personnes viennent, c'est parce qu'elles sont en demande d'hypnose. Et le fait que je sois médecin les rassure. L'hypnose au Maroc n'est pas encore bien connue. Ça, je crois que c'est important de le dire. Nous avons créé l'association marocaine d'hypnose il y a maintenant près de 8 ans. 9 ans même, nous avons formé 250 médecins à la pratique de l'hypnose. C'est essentiellement l'équipe du docteur Jean Becchio qui est venu former les médecins marocains. Et d'autres médecins se sont formés via des instituts privés d'hypnose ouverts en fait un petit peu à tout le monde. Donc en fait, oui, quand les gens viennent me voir, ils sont en demande d'hypnose.
Et lorsque vos parents sont sujets à l'anxiété, vos patients, pardon, sont sujets à quel lapsus, lorsque vos patients sont sujets à l'anxiété, est-ce que vous ne les traitez que par l'hypnose ou est-ce que vous avez recours à d'autres méthodes ?
Alors vous savez, l'hypnose pour moi c'est un outil thérapeutique que je privilégie. Mais c'est un outil thérapeutique qui est pour moi essentiel, je dirais même magique parfois, parce que moi-même je suis extrêmement, et on est toujours étonné des résultats chez certains patients. Cependant, l'hypnose doit être combinée quand il le faut à d'autres outils, comme les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies systémiques, et puis aussi, mais ça c'est le rôle du médecin, d'être très vigilant sur l'hygiène de vie, la diminution de consommation du café, du thé, la pratique de sport, parce que souvent on va retrouver ça, un manque de pratique sportive, l'arrêt du tabac, mais l'hypnose, c'est vraiment pour moi l'outil que je privilégie. Pourquoi ? Pourquoi je privilégie cet outil dans l'anxiété ? Parce que déjà, le fait que des personnes anxieuses puissent faire l'expérience d'une transe hypnotique, eh bien, ils vont faire l'expérience d'un état de bien-être, un état de sérénité qui va vraiment pour eux contraster avec le vécu habituel qu'ils ont de tension intérieure. Donc, ne serait-ce que ça, arriver à induire une transe chez les personnes anxieuses, c'est ouvrir pour eux un autre possible. Voilà. Il faut savoir que les personnes anxieuses, c'est des personnes qui ont du mal à être dans l'ici et maintenant. Elles ont du mal à être dans l'instant présent parce que leurs pensées sont soit dans l'anticipation négative du futur, soit plutôt en arrière dans la remémoration d'événements négatifs du passé. En fait, on pourrait presque dire que les personnes anxieuses sont dans un état hypnotique négatif. Et en hypnose, on va leur permettre d'être dans l'ici et le maintenant, dans la sensorialité, dans des sens, reprendre conscience de leur corps. Le simple fait de se focaliser sur leur corps, sur leur respiration, de se déconnecter de ses pensées anxiogènes, va vraiment leur permettre de trouver un outil, parce que l'hypnose, ensuite, ils vont pouvoir très rapidement acquérir des techniques d'auto-hypnose qui vont leur permettre d'être autonomes. Donc après, en hypnose, il y a plusieurs techniques d'induction que l'on peut utiliser chez les personnes anxieuses et on peut avoir d'excellents résultats réellement, notamment dans les phobies où l'hypnose est un outil extrêmement...
Oui, on en a parlé tout à l'heure avec Caroline qui a été interviewée et qui racontait sa phobie des rats et à quel point ses premières séances d'hypnose l'avaient aidée. Docteur Nsiri, j'ai une dernière question. Quel est le message que vous voudriez faire passer aujourd'hui ?
Alors d'abord, le message que je voudrais faire passer, c'est que l'hypnose, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et que, vraiment, c'est un phénomène aussi naturel que de respirer. respirait. Et que ce phénomène naturel, on peut l'utiliser pour soigner l'anxiété, mais aussi plein d'autres choses, hein, la douleur et plein d'autres choses en médecine. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est surtout d'inviter nos professionnels de la santé, nous, ici au Maroc, à se former à cet outil thérapeutique qui rend réellement de grands services dans plein d'indications et qui transforme la pratique médicale. Parce que je crois aussi que ce que l'hypnose apporte, c'est une autre façon d'aborder la relation médecin-patient, une autre façon d'écouter les patients. Le simple fait d'écouter les patients est en soi, peut devenir thérapeutique. Et ça, c'est vraiment important. Donc, vraiment, le message que je voudrais faire passer, c'est formez-vous à cet outil thérapeutique. Il change d'ailleurs la pratique médicale. Et en plus, je pense que l'ensemble des médecins qui pratiquent l'hypnose, non seulement c'est bénéfique pour leurs patients, mais en retour, c'est aussi bénéfique pour les professionnels de la santé. Il y a des études publiées qui ont montré que les professionnels de la santé qui utilisaient l'hypnose, eh bien, eux-mêmes étaient beaucoup plus sereins dans leur pratique quotidienne. Ça, je crois que c'est moins stressé. Merci. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Merci beaucoup, docteur Myriam Nsiri, médecin hypnothérapeute à Casablanca, d'avoir été en ligne avec nous.
RFI.
On va retourner au standard où nous attend Justin. Bonjour Justin.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Conakry, en Guinée. On vous écoute, hein. Le docteur Bordenave est toujours à mes côtés.
Bon, juste par rapport au problème de stress, moi, depuis que j'avais perdu mon papa, j'avais eu beaucoup de stress, j'étais beaucoup anxieux. Et à l'époque, je ne savais pas que faire. J'avais perdu toutes les notions de la vie et je n'avais même pas envie de vivre, compte tenu du stress que je traversais à l'époque. Et ben, par coup de chance, je me suis rencontré avec une femme qui m'a aidé à quitter dans ce stress. Mais comment cette dame m'a pu aider, elle m'a réconforté, envoyé dans les places, dans les lieux de culte, beaucoup de coins, à l'église, pour que je puisse changer avec ce stress. Et à un certain moment, il m'a fait consulter chez un psychologue du nom du professeur Doucouré, qui m'a consulté, qui a prescrit certains médicaments. Et après cette prescription, il m'a dit, bon, vraiment, il faut prendre ces médicaments, et parce que c'était plus que des anxiolytiques. Et ce stress même m'a fait perdre 2 ans à l'université, et ces 2 ans que j'ai eu à perdre, je ne pouvais pas me rattraper compte tenu de ce stress. Maintenant, j'ai pris les médicaments, mais tout le temps, bon, j'avais les effets secondaires de ces médicaments me fatiguaient, et tout le temps, j'étais fatigué, je n'arrivais pas à me contrôler. Et à plus que ça, elle me dit, ah bon, comme si ça ne va pas, allons voir un médecin traditionnel. Nous sommes allés passer par la médecine traditionnelle où ce monsieur a broyé des feuilles que je ne connais pas absolument. Et il a mis les gouttes de ces feuilles dans les yeux. Chaque soir que je veux me pousser, il met ça. Maintenant, quand je m'endorme, je me trouvais dans un autre monde où il y avait la gaieté, un monde de joie où je me trouvais vraiment, et ça a pu apaiser mon système, mes stress et autres. Maintenant, ma question par rapport à ça, je me disais, est-ce qu'il y a une autre méthode de traiter le stress à part les médicaments?
Très bien, Justin. Docteur Bordenave, est-ce qu'on peut gérer son stress autrement qu'avec des médicaments? C'est ce que veut savoir Justin.
Oui, alors donc Justin, pour l'histoire de Justin, c'est vrai que ce qu'on peut noter déjà, c'est que c'est un processus de deuil, et il faut rappeler que le processus de deuil, c'est quelque chose qui est très long, beaucoup plus long que ce qu'on pense, qui peut être très violent dans ses manifestations anxieuses ou dépressives, et qui vous tombe dessus et pour lesquelles on n'est pas préparé, et malheureusement pour lesquelles on ne peut pas se consoler tout de suite. Donc le fait que le médecin ait prescrit des anxiolytiques, il ne faut pas diaboliser le traitement médicamenteux, même si c'est vrai qu'il faut savoir s'en séparer rapidement. Ce sont des traitements qui doivent être pris en cure courte. Après, je crois que le mot décisif dans le témoignage de Justin, c'est le mot joie. C'est-à-dire qu'il a cheminé, et ce qui l'a aidé à aller mieux, c'est de laisser revenir de la joie, du plaisir, et également d'être entouré. Il a décrit qu'il était très entouré. Donc, il y a plein de façons non médicamenteuses d'aller mieux. Laisser revenir du plaisir dans sa vie, revoir ses priorités, passer du temps avec les gens qu'on aime, ce sont des techniques très efficaces. Après, pour les techniques techniques thérapeutiques à proprement parler, oui, il y en a, l'hypnose en fait partie, mais d'autres aussi, la relaxation, la sophrologie, et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein. Chacune d'entre elles a des avantages, et chaque personne va être attirée par une technique ou par l'autre. Donc il faut essayer, il faut voir ce qui nous fait du bien.
Merci beaucoup Justin de nous avoir appelé. Bonne journée à Conakry. Docteur Bordenave, le docteur Nsiri tout à l'heure qu'on avait en ligne de Casablanca nous parlait des exercices d'auto-hypnose. Est-ce qu'entre deux séances chez un hypnothérapeute, on peut faire chez soi des exercices d'auto-hypnose et comment ça se passe ?
Alors bien sûr on peut. Alors c'est pas obligatoire, hein. C'est pas une nécessité pour aller mieux, parce que sinon on va considérer que c'est des devoirs à faire à la maison et on se met une pression supplémentaire alors qu'on essaye justement de quitter une forme de pression. Après on peut être accompagné par exemple par un enregistrement du thérapeute qu'on fait en séance et qu'on peut réécouter. C'est un support sur lequel on peut prendre appui dans les moments où l'anxiété revient, où on est moins à l'aise. C'est une très bonne chose d'avoir recours à un support en toute autonomie.
C'est ce dont parlait Caroline, notre première interview tout à l'heure.
Exactement, elle a eu un support et ça l'a aidé à chaque fois à se recentrer ou plutôt à se décentrer de sa phobie. Après, on peut pratiquer l'auto-hypnose sans support également, parce que contre toute attente, c'est très facile de s'auto-hypnotiser, de se mettre en hypnose. Et ma collègue l'a très bien dit, c'est aussi simple que de respirer.
Alors comment on fait ?
Eh bien, ça passe par une étape de focalisation initiale. Il faut focaliser son attention, c'est ça le principe. On peut focaliser son attention sur plein de choses, hein, sur fixer un point, écouter une musique, avoir une image mentale particulière et se mettre dans un état de disponibilité attentionnelle qui est plus souple, qui est plus libre, plus imaginative, plus intuitive aussi, et qui va avoir des vertus bienfaisantes contre l'anxiété.
Mais si personne n'est là pour vous guider, comment ça marche ?
Alors, on peut faire de l'hypnose juste pour faire de l'hypnose sans suggestion, hein, mais on peut aussi se faire de l'auto-suggestion consciente en hypnose, donc se formuler pour soi-même des intentions.
Et il n'y a aucun risque de rester plongé dans ce que vous appelez la transe hypnotique ?
Non, on ne peut pas rester bloqué en hypnose parce que c'est un phénomène naturel qui s'épuise de lui-même, comme le rêve. Finalement, on en sort de façon spontanée. On a une petite horloge interne qui nous dit « Ah, c'est bon, c'est le moment pour moi de finir ma séance ».
Je voudrais revenir aux enfants. Pourquoi est-ce que l'hypnose fonctionne aussi bien sur les enfants ?
Eh bien parce que je viens de vous parler d'intuition, d'imagination. La conscience des enfants est différente de celle des adultes. Ce sont des individus en devenir qui sont très perméables à leur environnement, très sensibles à leur corps, très sensibles à l'imagination et qui puisent en permanence dans l'imagination pour comprendre et pour s'adapter à la réalité. Et c'est ça que fait l'hypnose, c'est avoir recours à l'imagination pour inventer une réalité qui soit convenable pour le sujet. Donc c'est pour ça que c'est si facile avec les enfants.
Merci beaucoup docteur Lauriane Bordenave d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes médecin hypnothérapeute au centre Hypnosis à Paris et je renvoie nos auditeurs à votre livre « L'hypnose pour mon enfant, solution pour petits et grands problèmes » dans la collection « J'ose l'hypnose » aux éditions In Press.
Priorité santé sur RFI.
Comme promis, nous allons maintenant faire le point sur l'épidémie de grippe qui progresse en France. Docteur Sybille Bernard-Stocklin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à Santé publique France. Alors l'épidémie de grippe a commencé début janvier, nous sommes le 1er février. Où en est-on ? Est-ce que toute la France est touchée ?
Oui, donc en fait depuis la semaine dernière, toutes les régions en métropole sont passées en épidémie. Et on observe une forte augmentation de l'activité de la grippe dans toutes les régions. Alors qu'est-ce que ça veut dire une augmentation de la grippe importante ? Ça veut dire un grand nombre de consultations pour syndrome grippal ou grippe chez les médecins de ville, mais également une forte augmentation des passages aux urgences pour syndrome grippal et des hospitalisations pour grippe.
C'est par le nombre de consultations aussi de malades grippés et pas seulement le nombre d'hospitalisations que vous pouvez vous rendre compte de la progression de l'épidémie ?
Tout à fait. En fait, le réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins généralistes un peu partout en France, surveille cette circulation de la grippe dans les différents territoires et nous permet de monitorer cette circulation au niveau national.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'épidémie a atteint son pic ?
Alors, pour le moment, c'est un petit peu tôt pour savoir si on a atteint le pic. Par définition, il faut attendre que le pic soit passé pour qu'on sache qu'on a atteint le maximum de l'activité. Ce qu'on peut dire, c'est que l'augmentation est très nette et qu'il est fort probable que le pic soit atteint dans les prochaines semaines.
Est-ce qu'il est trop tard pour se faire vacciner contre la grippe ou est-ce qu'on peut encore le faire ?
Alors, bien sûr, pour les personnes qui sont à risque de complications, donc qui sont ciblées par la vaccination, il est encore temps de se faire vacciner. Malgré tout, on observe une forte circulation de la grippe. Et donc, maintenant, une des façons de lutter contre le risque d'être infecté implique des gestes du quotidien, d'hygiène, que n'importe qui peut faire d'ailleurs, pas seulement les personnes qui sont à risque de complications.
Puisque la grippe, il faut le rappeler, est une maladie très contagieuse.
Oui, tout à fait. La grippe est due à un virus qui se transmet de façon très facile de personne à personne. C'est une maladie contagieuse qui est le plus généralement bénigne, mais qui peut avoir des conséquences très sévères, voire dramatiques chez certaines personnes qui sont plus fragiles.
Oui, parce qu'on a enregistré 33 décès en France depuis le mois de novembre. C'est un chiffre extrêmement lourd.
Alors, pour l'instant, depuis le mois de novembre, on a enregistré donc plus de 400 personnes qui ont été admises en réanimation pour une forme très sévère de grippe. Et parmi ces personnes, il y a eu 33 décès. Mais ces 33 décès ne sont pas seulement, c'est pas la totalité des personnes qui sont décédées à cause de la grippe depuis le début de l'épidémie.
Alors, je reviens aux conseils que vous voulez donner. Quels sont les conseils d'hygiène à suivre impérativement en période d'épidémie de grippe ?
Voilà, alors ces gestes d'hygiène très simples qu'on peut vraiment adopter au quotidien et qui ne sont pas seulement efficaces contre la grippe, mais contre tous les virus de l'hiver, se concernent donc en tout premier lieu le fait de se laver les mains très régulièrement, à l'eau et au savon ou en utilisant une solution hydroalcoolique. Et puis pour les personnes qui seraient grippées, pour éviter de transmettre l'infection dans leur entourage et notamment à des personnes fragiles, il existe quelques gestes très simples, donc notamment le fait, quand on se mouche, d'utiliser un mouchoir jetable et de le jeter immédiatement après usage, ou encore d'éternuer dans son coude. Et si l'on est grippé et en contact avec des personnes très vulnérables, il est recommandé de porter un masque.
Et on évite... Oui, allez-y, je vous ai coupé.
Masque qu'on peut facilement se procurer en pharmacie.
Et on évite, j'imagine, les embrassades et même les poignées de main ?
Alors oui, ce qui est sûr, c'est que quand on est grippé, il faut limiter les contacts avec son entourage. On reste chez soi. Généralement, on se sent vraiment pas bien, donc on a plutôt envie de rester chez soi. Et puis, voilà, on évite les contacts proches avec l'entourage.
Alors, une grippe dure combien de temps ?
En moyenne, une grippe nécessite un arrêt ou en tout cas de rester chez soi pendant à peu près 5 jours.
Docteur, j'ai une dernière question. La grippe en France revient chaque hiver. Est-ce que c'est typiquement une maladie de saison ou est-ce qu'on peut attraper une grippe quand il fait chaud ?
Alors, tout à fait. Donc, la grippe en France et dans tous les pays de l'hémisphère nord avec un climat tempéré est une maladie saisonnière. C'est-à-dire que chaque année, on a une épidémie de grippe et cette épidémie de grippe survient en hiver entre le mois de novembre et le mois d'avril à peu près. Les virus grippaux circulent au niveau mondial toute l'année. Alors évidemment, si on part en voyage dans un pays chaud dans lequel il y a une circulation de la grippe, on peut l'attraper. Mais en France, on n'observe vraiment pas du tout ou vraiment très peu de circulation des virus grippaux en dehors de cette période hivernale de novembre à avril.
Merci beaucoup docteur Sybille Bernard-Stocklin, épidémiologiste à Santé publique France. Priorité Santé touche à sa fin. Lundi, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, nous ferons le point sur l'immunothérapie. Pour poser vos questions, notre numéro de téléphone 33 1 84 22 75 2 fois. Florelle Manda, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous présenter tout à l'heure 7 milliards de voisins dans 10 minutes. Quel thème aujourd'hui ?
Effectivement, nous parlerons du dur métier d'être parent. Selon une enquête réalisée par la Fondation de la Famille et Ipsos en 2011, 74% des Français estiment qu'il est plus difficile d'élever ses enfants qu'il y a 20 ans. Alors comment s'épanouir dans sa famille et entretenir